Matière à penser, Dominique Rousset.
Bonsoir à tous et c'est la reprise de la série que nous avions initiée et interrompue au mois de mars dernier pour Matière à penser. D'une génération à l'autre, regard croisé à l'horizon 2030. Proposition a été faite à nos invités de disciplines et d'âges différents d'envisager l'avenir dans 10 ans. Une échéance qui paraît plus raisonnable que celle de 2050, même si cette dernière est souvent citée et retenue par les prospectivistes. Mais en politique, qui sera au cœur de notre discussion ce soir, elle est décidément trop risquée. 2040 est encore un peu loin, 2030 donc assez près pour donner de la crédibilité aux analyses et permettre à chacun d'entre nous de se projeter, en dépit bien sûr de grandes incertitudes. Nous en faisons assez l'expérience ces dernières semaines. Pour les plus jeunes en tout cas, c'est l'occasion de réclamer dès maintenant des pratiques nouvelles, une évidence, une urgence même aux yeux de nos invités, tous deux trentenaires. Pour l'une, il s'agit de rapprocher les disciplines entre elles et surtout de faire tomber les murs entre intellectuels et politiques, c'est le titre de son dernier livre. Pour l'autre, il faudra trouver un grand compromis entre le capitalisme et la démocratie et ce qu'il appelle le système Terre, condition d'un renouveau des solidarités sociales, durement malmenée depuis quelques décennies. Allez donc vers ce qu'il appelle la « slow démocratie ». Bonsoir Agathe Cagé, bonsoir David Jaïs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Agathe Cagé, donc, qui a cofondé déjà, en dépit de son âge, hein, je l'ai dit, nous sommes là sur la génération la plus jeune à cet horizon 2030, qui a cofondé donc un think tank, ça s'appelait Cartes sur Table, je le signale parce que vous l'avez quitté aujourd'hui, mais vous avez conseillé des personnalités politiques notamment, et depuis, vous avez cofondé et vous présidez le cabinet de conseil Compass Label, avec ce combat donc, que j'ai déjà signalé, faire tomber les murs entre intellectuels et politiques séparés en 2018. Faire tomber les murs, ça veut dire qu'ils étaient dressés auparavant ou...
C'est-à-dire qu'ils
Est-ce qu'il y a eu une époque où ils étaient par terre aussi ?
Ça fait longtemps qu'ils sont dressés et ça fait longtemps qu'ils sont fort hauts. Mais on voit où la problématique des murs et de ceux qui veulent en dresser de nouveau partout peut nous mener. Les murs aujourd'hui, c'est l'arme des populistes, c'est l'arme de ceux qui sont des va-t-en-guerre et c'est l'arme de ceux qui préfèrent rejeter l'autre plutôt que de le comprendre pour l'inclure. Et entre les politiques et les intellectuels, ces murs sont très hauts et ça se fait au détriment de beaux projets de société qui pourraient être portés.
Voilà ce dont nous allons parler avec David Jaïs, normalien énarque et haut fonctionnaire, qui enseigne également à Sciences Po, un livre aussi très remarqué, Slow Démocratie ou Comment maîtriser la mondialisation, reprendre notre destin en main, c'est en sous-titre, j'ai paru chez Alari, un éloge de la lenteur qui s'inspire un petit peu du fameux slow food italien.
Oui, en tout cas, une meilleure articulation entre la société politique et l'économie, qui suppose une décélération de l'économie et un réencastrement du marché dans des exigences sociales, environnementales et démocratiques qui doivent primer et qu'on a un peu oublié pendant ces 30 années de néolibéralisme.
D'emblée, cette accélération, elle est due à quoi ? La mondialisation, à la révolution technologique ?
Les deux en réalité. Et je pense que c'est un peu... scolastique d'essayer de distinguer la part de la mondialisation économique et la part du changement technologique dans la grande accélération que nous vivons. Une grande accélération qui se traduit par la diffraction de nos existences, mais qui se traduit aussi par une exploitation sans précédent des ressources naturelles, une pression inédite sur les équilibres bio-géo-écologiques. Il est urgent de ralentir et c'est vrai que le livre se propose de donner quelques clés, quelques solutions pour organiser cette décélération de la manière la plus harmonieuse possible.
Pour vous aussi, comme l'a dit Agathe Cagé, la menace des populismes, vous la mettez en tête ?
Oui, je crois que les populismes, c'est une réaction presque chimique à ces 30 années de dérégulation, à ces inégalités sociales et territoriales qui se sont creusées, notamment dans les sociétés occidentales. Aujourd'hui, il y a une volonté de reconquête, de reprise en main, sauf qu'elle s'exprime sous le visage autoritaire, identitaire des populistes. Et il est très important d'essayer de fabriquer des alternatives.
Et évidemment, en faisant appel à la science, à la recherche, Agathe Cagé.
En faisant appel notamment à la science et la recherche. Pas pour dire que la science et la recherche détiennent une vérité et qu'il faudrait imposer cette vérité à un gouvernement des scientifiques. Ça n'a absolument aucun sens. Par contre, ce qui a du sens, c'est s'appuyer, et notamment en France, sur la richesse intellectuelle et académique que nous possédons dans absolument toutes les disciplines, de la sociologie à l'ethnographie, en passant par la science politique, la médecine, la physique, les mathématiques. On a une richesse incroyable de compréhension du monde, de recherche des causes des phénomènes qui sont en train de se produire, d'anticipation de phénomènes qui demain vont se produire et de proposition de solutions aussi. Et si on mobilise le monde scientifique pour construire des projets de société, pour améliorer aussi les politiques publiques, alors on fait les choses de manière beaucoup plus efficace et aussi de manière à embarquer avec la politique qui est conduite une plus grande partie de la société. Je vais prendre un seul exemple, le cas de l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, c'est très intéressant parce que tout d'un coup, vous avez le monde associatif, vous avez des citoyens qui signent par milliers, par centaines de milliers même.
On va le rappeler, c'est une initiative récente d'ailleurs.
C'est une initiative récente dans le cadre de laquelle il s'agissait d'attaquer l'État pour dire vous ne faites pas assez vite et assez bien pour lutter contre le changement climatique. Or, on avait vu depuis des années et des années et des années les experts du GIEC poser sur la table un certain nombre de réalités. Et c'était une des constats scientifiques nécessaires, mais tout seul, finalement, leur voix était un peu sourde. En associant ces scientifiques avec la parole citoyenne massive, avec le mouvement associatif qui s'est aussi mobilisé, avec un certain nombre de personnalités qui ont pris la parole, alors là, vous aviez plus de mur du tout entre ces différents univers qui ne se croisent pas assez. Et vous aviez un combat qui pouvait être mené médiatiquement. Ouais. Et qui pouvait contraindre l'État à agir plus vite face à une urgence qui aujourd'hui est partagée par tous.
On rappelle que c'est une initiative internationale. D'autres pays ont été attaqués en justice, on va le dire comme ça, et c'est actuellement le cas. Et surtout qu'on a recueilli un très grand nombre de signatures via Internet. David Jaïl, sur ce point justement, est-ce que le lien est fait évidemment avec la pratique de la démocratie telle que vous la souhaitez ?
Ouais, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a une démocratie qui traverse une crise très grave. Il y a une défiance très forte de nos concitoyens dans les institutions de la démocratie représentative, qui est lié davantage, à mon sens, au fait que la démocratie ne délivre plus ses promesses, qui est lié à la perte de pouvoir sur soi des démocraties, la perte de Kratos, beaucoup plus que à une prétendue incohérence ou impatience des citoyens. Moi, j'aime pas beaucoup ces explications qui consistent à infantiliser les citoyens en disant, avec les réseaux sociaux, ils ont une attitude de plus en plus consumériste vis-à-vis du pouvoir politique. Moi, je crois que c'est depuis 40 ans une organisation méthodique de la déception. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement de reconquérir de la puissance publique, de reconquérir du pouvoir sur soi. Et cette puissance publique ne se cantonne pas à l'État comme appareil politico-juridico-administratif. Dans la puissance publique, la puissance publique déborde en quelque sorte l'État, et dans la puissance publique, il y a les communs, il y a la société, il y a les collectivités territoriales, il y a tout ce qui peut en quelque sorte organiser des rapports sociaux en les soustrayant à la seule règle du marché.
Alors j'ai dit quand même en commençant que l'un et l'autre, vous aviez fait d'abord des études assez brillantes, vous êtes normalien l'un et l'autre pour ne citer qu'un exemple, mais vous avez l'un et l'autre croisé, conseillé, approché même plus que ça des politiques, et vous êtes l'un et l'autre donc des chercheurs en contact avec les politiques. Donc, vous vous excluez quand même de ces relations qui vous paraissent pas conformes ou pas telles que vous les souhaitez. Vous êtes à la fois dedans et dehors, Agathe Cagé.
Oui, avec les deux jambes et avec une certaine fierté de pouvoir mener ce double engagement. Moi, mon combat, c'est de dire, attention, en France, on fonctionne un peu comme si chacun devait être dans un couloir de nage et nager absolument tout seul. Vous voyez, la manière de fonctionner en France majoritaire entre le monde de l'administration, le monde des responsables politiques et le monde universitaire, c'est comme si on faisait un relais, mais au lieu de se passer le relais chacun après avoir fini sa course, chacun faisait son relais dans le couloir, donc on n'arrive jamais au bout, finalement. Et je pense que des chercheurs peuvent aller conseiller de très près les politiques.
Parce qu'ils
ont quelque chose à les...
Ce n'est
alors,
pas le cas,
c'est très, peu c'est très peu le cas aujourd'hui. Ils ont quelque chose à leur apporter. Il y a, dans chacun des deux mondes, il y a des langages, il y a le respect de certaines règles, de certaines légitimités. Quand un chercheur va en politique, il devient d'une certaine manière un responsable politique, mais il a sa compréhension du monde de la recherche. Et on s'enrichirait plus s'il y avait plus de personnes dans ces deux mondes. Il n'y a rien de... Pour moi, c'est une forme de fierté de pouvoir dire oui, tout à la fois, j'ai eu des engagements politiques très forts. Je tiens à mener le plus possible mes recherches en sciences politiques au plus haut niveau de qualité académique qu'il m'est possible d'atteindre. Et même aujourd'hui, j'ai une expérience dans le monde de l'entreprise et je trouve aussi que c'est une expérience extrêmement enrichissante. Et c'est en s'enrichissant de la diversité de ce qu'on peut apprendre dans différents univers, ça c'est ma conviction, qu'on est plus fort et qu'on est plus fort collectivement. Il faut qu'on sorte des silos, il faut qu'on sorte des tuyaux d'orgue, il faut qu'on sorte des couloirs de nage. La France en souffre, mais de manière exagérée.
Plus que d'autres nations.
Plus que d'autres nations. pendant le dernier quinquennat, vous aviez une économiste brillante hein, qui, depuis, a été prix Nobel d'économie et Serre Duflo. Elle était conseillère de Barack Obama. C'est très bien que cette économiste ait conseillé le président américain. C'est dommage qu'à l'époque, elle n'ait conseillé que le président américain. On peut se dire qu'elle aurait peut-être aussi pu apporter quelque chose à la politique économique française.
On peut se dire aussi que la recherche française perd ses grands chercheurs pour d'autres raisons budgétaires notamment.
Également.
David Jayes.
Oui, moi je suis aussi très favorable à ce décloisonnement et à cette circulation entre les différentes sphères. De ce point de vue, ce qui se passe en Allemagne ou aux États-Unis est intéressant parce qu'on a des gens qui peuvent être à la fois dans la sphère politique, revenir dans la sphère académique. Il y a des think tanks qui sont puissants et qui agrègent à la fois des responsables politiques, des académiques, des gens de l'entreprise. Ce qui n'est pas le cas en France parce qu'on a un problème en France avec les think tanks qui sont assez petits, assez mal financés. Et je pense que la qualité du débat public s'en ressent et la qualité des politiques publiques qu'on fabrique aussi. Je pense qu'on peut plus aujourd'hui fabriquer des bonnes politiques publiques en chambre entre technocrates. Il faut décloisonner les approches, il faut intégrer tous les travaux qui existent en sciences sociales par exemple. On ne peut pas travailler sur l'asile, sur l'intégration, sur les mobilités sans avoir les travaux en sciences sociales à la frontière technologique si j'ose dire sur ces questions. Mais on ne peut pas le faire non plus parce qu'il ne faut pas faire ça uniquement entre intellectuels sans le concours de l'usager et du citoyen. Et c'est pour ça que moi je suis très intéressé par les approches de design en matière de politique publique, comme on fait beaucoup au Danemark par exemple, c'est-à-dire une élaboration entre les différentes parties prenantes. Il faut des hauts fonctionnaires, il faut des académiques, mais il faut aussi que puissent participer à ce processus d'élaboration de la politique publique des citoyens et des usagers.
Quand vous parlez de la politique à l'avenir 2030, hein, c'est notre projet, on voit un peu les défauts là que vous commencez à souligner. La priorité pour vous, vous la proposez d'ailleurs dans votre ouvrage.
La démocratie libérale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle traverse une zone de turbulence très grave, qui est liée à un déficit de confiance très profond d'une majorité de nos concitoyens dans les institutions, qui est liée aussi à ce que je disais, c'est-à-dire le sentiment qu'entre les paroles et les actes, il y a désormais un gouffre, que les responsables politiques ne peuvent plus délivrer leurs promesses. Et le danger, c'est que des démagogues qui vont flatter les pires instincts s'emparent des commandes et arrive en disant, nous, on va rétablir la situation, on va reprendre le contrôle. Donc il est extrêmement important de redonner en quelque sorte à la démocratie du pouvoir d'agir. Et ce pouvoir d'agir, ça ne pourra être fait, c'est ce que j'explique dans le livre, que
si vous appelez reprendre notre destin,
si nous sommes capables, en réalité, de réencastrer un capitalisme mondialisé qui est en quelque sorte sorti de sa boîte, et de le soumettre à la fois à l'impératif démocratique, mais aussi à la règle écologique.
Et davantage le rapprocher des territoires, c'est un point central.
Et de le rapprocher davantage des territoires, parce que dans cette dimension de puissance publique, de pouvoir commun, il y a aussi un fort ancrage territorial, surtout à l'ère anthropocène, puisque nous devons beaucoup mieux faire corps avec notre milieu naturel. Et c'est pour ça d'ailleurs que les 30 Glorieuses, qui étaient d'une période de relative efficacité de la démocratie, ne pourront pas être reconvoqués comme tels parce que durant les 30 Glorieuses, on avait deux termes. D'un côté, le capitalisme qui fonctionnait assez bien, il y avait de la croissance, l'industrie était performante. De l'autre, une société qui était en quelque sorte alimentée grâce à la croissance. La protection sociale n'a cessé de progresser durant cette époque. Les taux de participation aux élections étaient élevés. Mais ça s'est fait au détriment du système Terre, parce que 1945, le début des 30 Glorieuses, c'est aussi le début de la grande accélération, d'une pression sans précédent sur les équilibres géo-écologiques. Et ce qu'il nous revient d'inventer maintenant, c'est un système à trois termes, où on a un capitalisme maîtrisé, en phase avec une démocratie bien territorialisée, et une soutenabilité environnementale qui reste encore à inventer.
On vous demandera tout à l'heure si vous avez l'impression d'avoir l'oreille des politiques d'aujourd'hui sur tout ce que vous proposez là, Agathe Cagé.
Pour moi, à l'horizon 2030, le grand combat qui doit être mené, c'est celui de créer une société inclusive. D'abord inclusive entre les hommes et les femmes. On a une grande problématique et j'espère qu'on va la résoudre dans les 10 années à venir, parce qu'il y a une urgence réelle aujourd'hui de pas quelle place des femmes on a dépassé ce sujet. J'espère qu'on a dépassé ce sujet. Pas quelle place des femmes dans la société, mais est-ce qu'on va réussir à construire une société dans laquelle il y aura une véritable égalité entre les sexes, une égalité au niveau salarial, hein, on n'y est pas au rythme, on y va, il y a des calculs qui ont été faits, on sera à l'égalité salariale dans plus de 250
ans.
Dans plus de 250 ans.
Une société. Sauf à prendre, bien sûr, des mesures plus radicales.
Il faudra prendre des mesures plus radicales. Ouais. Une société dans laquelle, on pourra avoir un droit d'expression des femmes sans que certains les traitent directement d'hystériques. Une société dans laquelle, vous pouvez avoir une reconnaissance de leur égale importance quand vous parlez, du sport féminin et du sport masculin. Moi, ce que j'attends de voir voir d'ici la prochaine Coupe du Monde de football. C'est un match entre l'équipe de France masculine championne du monde de football et l'équipe américaine féminine de football championne du monde de football. Les voir jouer l'un contre l'autre, la FIFA organiserait ça. Je pense que ça serait un spectacle mondial absolument formidable. Un monde dans lequel vous pouvez avoir des dirigeants d'entreprises du CAC 40 qui puissent être amenés à quitter leur poste sans qu'on mette en cause directement leur style de management, parce que directement les femmes ne sont pas remises en cause sur une stratégie, mais par un a priori d'autoritarisme. Donc une société inclusive sur le sujet de l'égalité entre les sexes, une société inclusive sur le sujet des générations, doublement. Quelle place on donne aux jeunes dans la construction des projets de société et quelle place on donne à ce qu'on appelle aujourd'hui le quatrième âge. Notre société aujourd'hui est une société qui exclut, on n'a pas réussi à recréer le lien social, et ce lien social-là, il va falloir le créer en urgence, en repensant les espaces, en repensant la construction des villes, en repensant le logement, parce qu'il y a véritablement une urgence à faire en sorte qu'on fasse tous société ensemble et pas qu'il y ait ces exclusions de génération, les plus âgés et les plus jeunes qui aujourd'hui sont à part des projets de société tels qu'ils sont pensés. Ouais. Et puis enfin une inclusion, là je reprends ce que dit David, entre les territoires. C'est un problème fondamental. Aujourd'hui, vous n'avez pas de projet de société qui permette d'entraîner ensemble tous les territoires, et la fracture territoriale et sociale est un problème. Revenons au terme du populisme, si on ne le résout pas dans les années à venir, oui, ouais, le populisme sera là, il y aura des raisons à cette arrivée.
David Jay.
Je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit. J'ai une inquiétude quand même sur notre vie en commun. J'ai le sentiment que nous entrons de plus en plus, et on le voit parmi les jeunes générations, dans une approche beaucoup plus transactionnelle de la politique, où chacun s'enferme dans des îlots, dans des bulles. C'est parfois alimenté par les réseaux sociaux, c'est parfois alimenté aussi par des combats politiques parfaitement légitimes, mais qui consistent à segmenter les identités, à segmenter les genres, à segmenter les cultures. Et ma crainte, c'est que s'il est nécessaire effectivement de mener le combat pour l'égalité absolue entre les sexes, je ne voudrais pas que nous entrions dans une société de la défiance généralisée, où certaines parties de la société deviennent suspectes pour d'autres. Je donne un exemple de ce que je dis. Quand on regarde les sondages qui sont pratiqués sur le rapport à la laïcité c'est vraiment l'idée du bien commun, et ça va au-delà de la simple tolérance religieuse ou de la simple liberté de conscience. Eh bien, on voit que l'attachement à la laïcité décroît en fonction des générations. Pas du tout en fonction des CSP, mais en fonction des générations. Les plus jeunes préfèrent à la laïcité le concept de respect. C'est-à-dire qu'ils considèrent que chacun doit être respecté dans son identité, dans son groupe. Alors évidemment, le concept de respect est important. Mais vivre en république, vivre en société, vivre en commun, ça suppose quelque chose de plus que le simple respect des identités éventuellement blessées. Ça suppose une règle commune. Ça suppose la possibilité d'un véritable débat public. Je mets quand même un vrai point d'alerte sur ça, parce que c'est l'avenir de notre République qui est en question.
Je retiens votre idée. Ce terme de laïcité vous convient plus tellement, il ne vous paraît pas.
Ah, moi, il me convient très bien, justement.
Mais ce pas tel qu'il est discuté actuellement.
Ce qui m'inquiète, c'est plutôt le fait que le concept de République et de choses communes qui a derrière la laïcité, mais aussi une série d'autres concepts, est en train aujourd'hui de s'effriter, et que nous avons une éruption des particularismes. Parfois, c'est parfaitement légitime parce qu'il y a des combats à mener. Par exemple, le combat pour l'égalité des sexes, il est absolument nécessaire parce qu'il y a des asymétries de puissance qui sont insupportables dans la société. Mais attention aux termes qu'on utilise, attention aux invectives qu'on utilise, attention à ne pas créer des affrontements dans la société qui, demain, pourraient conduire à une érosion de notre vie en commun.
Matière à penser, nous reprenons la série d'une génération à l'autre, regard croisé, à l'horizon 2030, enregistrée en mars dernier, en compagnie de deux trentenaires, Agathe Cagé, qui propose de faire tomber les murs entre intellectuels et politiques, et David Jaiz, auteur de Slow Democracy, ou Comment maîtriser la mondialisation et surtout reprendre notre destin en main. Nous écoutons Beyoncé, Run the World, entre parenthèses Girls. C'est votre choix, Agathe Cagé, pourquoi ?
J'aime beaucoup cette chanson, j'aime beaucoup son titre, parce que Beyoncé est une femme qui a su casser les codes dans le domaine du business, dans le domaine de la musique, dans le domaine du spectacle, et là elle renverse quelque chose qui gouverne le monde, les femmes, les filles, qui demain deviendront des femmes, et on peut espérer qu'à l'horizon de 2030, oui, les femmes gouvernent le monde, au même poste, à côté des hommes, avec la même force et le même pouvoir. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappée, il y a quelques mois, Michelle Obama est venue à Paris, et la salle était comble, elle était comble de jeunes filles, elle était comble d'adolescentes qui sont à la recherche de modèles. Et Michelle Obama constituait pour elle un modèle incroyable parce qu'elle a su, par ses études en droit, en devenant avocat, par son parcours, se construire un destin. Michelle Obama est quelqu'un, indépendamment du parcours politique de son mari, elle représente quelque chose par le destin qu'elle a su se créer. Et les jeunes garçons comme les jeunes filles ont besoin de ces modèles féminins, de voir ces femmes qui réussissent par leur destin et voir ces femmes qui gouvernent le monde, que ce soit le monde politique, le monde de l'entreprise, le monde associatif, la société.
Agathe Cagé, David Jaïz, quelle réaction entendez-vous de la part des politiques à qui vous avez quand même l'un et l'autre l'occasion de vous adresser? Êtes-vous entendu par les politiques ou avez-vous le sentiment qu'ils sont totalement à côté d'idées comme celles que vous avancez?
Bon, moi, j'ai pas
chacun dans votre domaine.
Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir pensé des choses auxquelles les politiques n'avaient pas pensé. Et je pense qu'il y a...
Cette accélération, est-ce que vous la dénoncez?
Il y a quand même une conscience des enjeux de la part d'un certain nombre de responsables politiques, hein, de tous ces enjeux qu'on a évoqués, à la fois la transformation écologique, la crise de la démocratie. Il y a un constat d'inquiétude qui est souvent partagé, mais il y a assez peu de lucidité ou de clarté sur les solutions à apporter. La crise de la démocratie, c'est un problème qui semble comme ça insurmontable. On se dit, mais on se lève le matin, on se dit, qu'est-ce que je peux faire? On peut baisser des taux d'impôt sur les sociétés, augmenter des taux d'impôt de CSG ou de TVA. Régler le problème de la démocratie, c'est autrement plus compliqué, surtout quand la défiance est aussi profonde, aussi enracinée. Mais je crois que c'est la grande tâche à laquelle nous allons devoir nous affronter dans les prochaines années.
Pour le dire autrement, vous sentez les politiques un peu désemparés par la situation actuelle?
Clairement, mais qui ne l'est pas en ce moment. Nous traversons une zone de turbulence, une zone de grand changement. Et dans toutes les zones de grand changement, comme disait Gramsci, dans l'éclair-obscur surgissent les monstres. À nous d'arriver à écarter les monstres et à dessiner un avenir plus désirable.
Agathe Cagé.
Pour moi, il y a deux rôles différents. J'ai un rôle de conseiller du politique. En tant que conseiller du politique, j'avais des responsables politiques qui m'ont demandé à leur côté de les aider à faire avancer des dossiers. On a fait avancer des dossiers ensemble. Est-ce que les responsables politiques aujourd'hui écoute ce que dit le monde intellectuel? Je pense que le monde intellectuel ne s'exprime pas assez dans les débats publics. Parce que le premier champ d'expression d'un universitaire, d'un intellectuel, quand il veut sortir de sa zone de publication universitaire, c'est le débat public. C'est partager en s'exprimant publiquement ce qu'il a à dire, pas seulement avec les responsables politiques, mais aussi avec les citoyens, le monde associatif, mettre des choses dans le débat. Les intellectuels, aujourd'hui, en France, pour moi, ne le font pas.
C'est oui, parce que après... vous dites bien dans votre ouvrage, ce n'est pas que la faute des politiques. On a l'impression peut-être de dire ça. Vous dites que de part et d'autre, on s'ignore.
Oui.
C'est bien ça qui vous pose problème.
Pour moi, c'est le rôle des deux. Bien sûr que les responsables politiques ont aussi un rôle, qui est un rôle d'écoute, de compréhension et de se saisir de la parole qui est exprimée par d'autres acteurs que leur cercle immédiat. Écoutez le monde intellectuel et comptez aussi le monde associatif. Aujourd'hui, vous ne faites pas de politique de logement qui correspond aux réels besoins si vous ne travaillez pas avec la Fondation Abbé Pierre. Ça n'existe pas. Mais les intellectuels aussi ont à prendre une responsabilité. Il y a quelques années, je me suis étonnée que pour essayer d'apporter des solutions à la situation des migrants en France, on n'entende que la voix d'Yann Moix. Est-ce que d'autres voix ne devaient pas s'élever? Et c'est cette responsabilité-là de participer au débat public. Le rôle, c'est pas forcément d'aller conseiller, de travailler directement avec le politique, c'est de mettre des choses dans le débat et ensuite on va construire des projets de société. Et de toute façon, les projets de société doivent être construits avec les citoyens dans leur ensemble, et dans leur ensemble, dans leur diversité d'âge, dans leur diversité de lieux d'habitation sur leur territoire, dans leur diversité aussi de sujets parmi lesquels ils peuvent avoir des priorités, que ce soit l'engagement des citoyens dans l'environnement, l'engagement des citoyens dans le logement, dans l'engagement des citoyens dans l'accueil des migrants sur le territoire.
On ne vous oppose pas le risque d'instrumentalisation du chercheur, du scientifique par le politique ?
Je pense qu'il y a une relation de qualité à construire entre les deux. Un chercheur peut se mobiliser sans être instrumentalisé par le politique. Et le politique, quand il cherche à instrumentaliser le chercheur, aujourd'hui, de toute façon, il se plante totalement, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ça peut être fait, mais ça sera toujours mal fait, ça sera dénoncé, ça sera voué à l'échec.
David Jayes.
Enfin, j'ai un peu mauvaise grâce à dire ça au micro de France Culture, qui fait un travail héroïque en la matière, en donnant la parole à des intellectuels toute la journée. Moi, j'avoue que j'écoute à peu près 50% de la grille de France Culture en podcast.
Merci bien.
Mais il y a une responsabilité des médias aussi. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a un groupe d'éditeurs qui a signé une tribune très intéressante sur l'absence du livre à la télévision. Il n'y a encore pas si longtemps, il y avait un certain nombre d'émissions de télévision apostrophe pour les plus anciens, mais aussi l'émission de Frédéric Taddeï, qui était consacrée à la vie des idées, au débat intellectuel, au livre. Et aujourd'hui, dans les grandes chaîne de télévision, vous avez de plus en plus de mal à faire venir des auteurs, des romanciers, des producteurs d'idées. Et comme l'a dit Régis Debray, de manière assez amusante, le livre devient souvent plus un passeport pour la célébrité qu'un objet de débat d'idées ou un objet de débat public. Donc, sont invités systématiquement les auteurs les plus connus ou les auteurs qui sont susceptibles de produire du clash, qui sont susceptibles de produire de la polémique. Mais les jeunes chercheurs qui produisent des idées, qui travaillent et qui sont innombrables dans tous les champs qu'on a cités, hein, de la transition écologique au travail sur l'immigration, en passant par les territoires, ils sont malheureusement souvent exclus des antennes un peu grand public, à la très notable exception de Radio France, il faut rendre cet hommage quand même, qui accomplit en la matière sa mission de service public. Mais je crois qu'il y a un vrai travail à faire sur la télévision, qui reste un média très populaire, qui touche énormément de jeunes. Et si on ne le fait pas, de toute façon, le risque, c'est que ce soit des médias sur Internet ou des réseaux sociaux qui deviennent les vecteurs de ces idées, sauf que ces vecteurs-là sont parfois moins régulés et qu'il peut y avoir aussi de la fausse monnaie qui circule de manière virale parfois.
Hein. Ou bien qu'ils ne s'adressent qu'aux mêmes grâce aux algorithmes, grâce ou à cause. Et Agathe Cagé.
J'ajouterais qu'on ne peut pas faire se justifier d'un prétendu argument d'audience pour justifier ses choix d'aller vers le débat de clash plutôt que d'aller vers le débat de fond, parce que David a cité les antennes de Radio France et France Culture et France Inter sont en progression constante avec des résultats fabuleux d'audience, alors que c'est deux radios qui font le choix, je dirais, de populariser l'exigence, de présenter une exigence populaire. Et si on regarde du côté de la télé, Arte et son 28 minutes, parce qu'ils ont aussi su délinariser la programmation et avoir un très bon support numérique. Mais Arte et son 28 minutes, aujourd'hui, font des cartons en termes d'audience, alors que vous avez véritablement pas la recherche, entre guillemets, de la star médiatique ni du clash, mais la présentation du débat de fond avec des arguments de fond. Donc l'audience suit. Les citoyens sont aussi à la recherche de cela. Il suffit juste de leur proposer. Qu'on leur propose, ils vont l'écouter.
Vous avez l'un et l'autre, en fait, touché à peu près au même thème, même si, pour David Jayes, on l'a dit, c'était un regard sur la démocratie. Agathe Cagé, nous sommes à Horizon 2030. Vous avez fait des propositions de jeunes adultes à la génération 2040, hein, toujours pour faire sauter ces fameux carcans intellectuels. Et de votre côté, David Jayes, c'était vraiment un mot que vous craignez presque de voir ringardisé. Vous souhaitez réapprendre à parler positivement de la nation. Au fond, l'un et l'autre, vous vous adressez à la nation future.
Oui, d'une certaine manière.
Enfin, vous aimeriez que la réhabiliter.
Ah, moi, c'est évident que je crois profondément dans la nation démocratique telle qu'elle s'est construite en France après la révolution de 1789. Parce que, par différence avec l'Empire, par différence avec la tribu, qui sont des formes politiques archaïques, régressives, autoritaires, inégalitaires, la nation démocratique, dans l'idéal républicain, c'est la seule forme politique dans laquelle on a réussi à faire coexister ces trois biens publics également désirables, que sont la démocratie, donc l'autogouvernement des hommes et des femmes, la liberté civile, parce que nous sommes dans des démocraties libérales, où les libertés publiques sont garanties aux individus, et la redistribution, la solidarité sociale, c'est extrêmement important. Et 40 ans de mondialisation un peu incontrôlée ont mis en péril ces biens sociaux, à commencer par la solidarité et la redistribution. Et je crois que si nous voulons continuer à habiter dans la justice et maintenant dans la justice avec sa composante environnementale, ce monde, nous devons réhabiliter cette forme politique qui n'est pas exclusive, d'ailleurs, je le dis dans le livre, d'une meilleure appropriation de la démocratie locale et d'une construction européenne repensée.
Oui, mais vous dites aussi qu'on ne parle pas ici d'un mode identitaire ou d'un repli sur un village gaulois.
Pas du tout. Mais
quand
quand
même mis en avant par ceux qui défendent la nation.
Quand le drapeau de la nation est tombé à terre et que seuls les nationaux populistes identitaires se proposent de le relever, ça peut avoir une force de séduction pour des classes populaires ou des classes moyennes désemparées. Il faut maintenant que les démocrates, les républicains fassent aussi ce travail de réappropriation de cette nation qui est plus qu'un simple concept de philosophie politique, qui est notre maison commune.
Le manifeste dont je parlais, Agathe Caché, c'était au moment de la campagne à la présidence de la République 2017. Donc vous faisiez à peu près les mêmes propositions, au fond, hein, sur le vivre ensemble, sur une transition écologique nécessaire et sur une volonté de sortir un peu de ce découragement.
Oui,
pour faire vivre une société entière.
Il faut qu'on arrive à construire un projet de société qui entraîne tout le monde et qui ne peut être qu'un projet de transition écologique et de transition sociale. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est des programmes politiques qui sont construits sous forme de vignettes. Vous savez, on vous dit, cette semaine, vous aurez la petite vignette sur tel sujet, les hommes politiques au pouvoir et dans l'opposition envoient des petites cartes postales, comme si vous pouviez séduire des électeurs avec des cartes postales. Vous pouvez séduire des chaînes d'information en continu, parce que vous leur permettez de renouveler les Bordeaux quelques fois par jour, avec des cartes postales. Ce dont ont besoin les électeurs, et c'est pour ça qu'on avait écrit ce livre Génération 2040, la démarche était intéressante, parce qu'il y avait plusieurs dizaines de jeunes qui s'étaient mobilisés dans cette démarche, d'horizons différents, dans des parcours professionnels différents, d'âge aussi différents. Jeunes, ça veut dire beaucoup de choses. Il y avait des moins de 20 ans, il y avait des plus de 30 ans. Il y avait une forme de diversité dans la réflexion. On s'était dit peut-être que sur un quinquennat, faire société, c'est pas proposer un programme avec 100 et 150 mesures. C'est dire, voilà la ligne, voilà là où je vais vous emmener. Est-ce que où je vais vous emmener, c'est demain, partout sur le territoire français, il y aura le logement accessible et une bonne qualité de vie pour tous, avec des centres-villes qui sont réhabilités. Pourquoi pas, c'est un axe. Est-ce que demain, le projet où je vais vous emmener, dans 5 ans, ça sera une société véritablement inclusive, qui inclut les sexes et qui inclut les générations. Peut-être demain, le projet où je vais vous emmener, c'est une France qui aura tenu d'ici 5 ans tous ses engagements pour lutter contre le changement climatique. Je ne sais pas quel est le projet que les citoyens choisiraient, mais une vraie forme de projet de société avec une dynamique, un objectif, et on se met en route tous ensemble pour l'atteindre. Bien sûr qu'après on gouverne. Il y a des ministères, il y a des administrations, et on gouverne. Et
on décide surtout.
Peut-être que le projet, hein, c'est, je ferai en sorte que dans 5 ans, on ait des services publics renforcés, qui permettent d'offrir quelque chose de structuré, qui construit une solidarité sur l'ensemble du territoire national. Mais on emporte une société vers un objectif qui soit un objectif porteur, qui soit un objectif prédéfini, on y va ensemble et pour le reste on gouverne. Mais on arrête parce que sinon on est complètement à côté de la plaque et pourtant tous les partis politiques se dirigent vers là pour les prochaines échéances. On arrête de dire je vais vous faire des petites cartes postales surtout. Ça n'a pas de sens, c'est pas comme ça qu'on fait société.
David Jayes.
Tout à l'heure j'ai dit qu'une des racines de la crise de la démocratie et plus largement de la crise de la politique, c'est-à-dire du désintérêt croissant d'une partie des gens vis-à-vis de la chose publique, tenait au fait que les hommes politiques ne délivraient pas leurs promesses, ne faisaient pas ce qu'ils disaient. Je vais un peu radicaliser cette position. Je pense qu'il y a une deuxième composante de cette crise du politique qui est qu'on ne dit plus rien. Nous sommes dans une crise des récits. Je pense que ça rejoint ce que disait Agathe Caché. Moi, je crois beaucoup en la force du storytelling, mais un storytelling positif, pas orienté sur la communication et l'image. Une capacité d'entraînement dans le changement. Regardez les grands collectifs humains que sont les associations, les ONG, les entreprises. À chaque fois qu'il y a un projet de transformation à conduire, il ne marche que si on arrive à embarquer ce collectif humain dans la transformation. Et donc, ça nécessite un effort de récit, un effort de convocation de l'imaginaire. Aujourd'hui, les gens ont le sentiment diffus que nous vivons de grands bouleversements liés à la mondialisation, des bouleversements économiques et sociaux, liés à l'anthropocène, des bouleversements écologiques, liés à la montée des populismes, des bouleversements démocratiques. Mais il y a si peu de discours qui sont capables d'être entraînants et de susciter l'imaginaire. Et c'est vraiment cette fonction de récit qu'il faut réactiver, qu'il faut reconstruire. Et je crois que le problème des politiques, c'est qu'ils ont effectivement réduit leur action à des catalogues de mesures technocratiques, où l'approche technocratique du politique, c'est problème-solution, alors que véritablement, nous devons mobiliser nos capacités de synthèse, beaucoup plus que d'analyse.
un point important, car l'un et l'autre vous en parlez et vous défendez largement cette idée, c'est évidemment l'Europe et son rôle. Pour Agathe Cagé, elle doit clairement devenir le porte-parole des combats citoyens et des combats de la jeunesse, avec évidemment l'enjeu climatique en première ligne. Et là encore, vous êtes assez critique, y compris sur le Parlement européen, qui pourtant défend beaucoup de ses idées. Et quant à vous, David Jaïs, l'Europe aussi, vous y croyez également. L'entre-deux actuel de mise en concurrence des États, évidemment, n'est pas satisfaisant. Mais le gros problème aussi, là, il est plus économique, c'est que l'Europe fiscale n'est pas née, que là, on a un peu de mal à mutualiser ensemble nos désirs. L'un et l'autre sur l'Europe, on conclura avec cela, Agathe Cagé.
Clairement, je crois que l'Europe politique, je reprends l'expression que vous avez citée, le porte-voix des combats des citoyens et avant tout des combats de la jeunesse. L'Europe a un rôle qui est celui d'amplifier un certain nombre de dynamiques qu'on voit au niveau national. C'est pour ça que les grèves scolaires du vendredi étaient extrêmement intéressantes. C'était des grèves scolaires qu'on voyait partout dans le monde, mais aussi partout en Europe. Vous aviez une façon des jeunes, quelle que soit leur ville et quel que soit leur état, une façon des jeunes de se retrouver pour un combat qui, de toute façon, ne peut pas être mené aux frontières nationales. Et c'est pour ça que aujourd'hui il y a une forme de distanciation entre les citoyens et l'Europe. Très clairement, on le dit à chacune des élections européennes, mais les citoyens aujourd'hui ne comprennent pas totalement le rôle des institutions européennes, ne comprennent pas quelles sont les décisions prises par telle et telle instance, quelles sont les décisions prises par tel et tel niveau, parce qu'il n'y a plus de projet européen porteur d'un souffle qui leur est proposé. Ce qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui au niveau européen, pour moi, c'est un exemple qui peut paraître anecdotique, mais qui est vraiment intéressant, c'est au niveau du changement d'heure. Au niveau du changement d'heure, vous avez eu une consultation citoyenne qui a été faite partout. Vous avez eu véritablement une grande participation et vous avez eu un accord citoyen sur le changement d'heure. Et puis, ça va être décidé au niveau européen et ça va être mis en place. Ça peut paraître anecdotique, mais en même temps, vous voyez, c'était une capacité de donner la parole aux citoyens européens. C'était quelque chose qui a un impact quotidien, mais qui a un impact clair dans la vie, parce que le changement d'heure, ça modifie votre rythme de vie sur la moitié de l'année, et c'était un mouvement de l'Union européenne. Je prends pas l'exemple d'Erasmus, parce que c'est un exemple qui a tellement été pris de jeunes qui sont permis de se rencontrer, mais on peut véritablement mobiliser. Mais ce qui m'intéresse surtout avec le changement d'heure, c'est qu'il y a eu une constitution citoyenne. L'Europe a pas décidé ça d'or, sinon ça n'aurait eu aucun sens.
Si vous citez celle-là, c'est bien qu'elle est rare quand même.
C'est bien que les choses peuvent se démultiplier et qu'il faut avoir de plus en plus de dynamiques qui vont dans ce sens-là.
Plus de 60% des jeunes, on parle de ceux de moins de 25 ans, sont favorables à l'Union européenne, de manière peut-être un peu large, mais je crois que ce sont les derniers sondages. David Jaïs.
On constate quand même que parmi les classes moyennes et les classes populaires, il y a un désamour profond vis-à-vis de la construction européenne depuis une quinzaine d'années, qui s'explique assez aisément, parce que l'Europe est perçue comme une espèce de lointain monstre bureaucratique, hors sol, qui promeut la concurrence, la compétition, et pas du tout les valeurs de coopération qui étaient promues par les pères fondateurs. Alors c'est un procès qui est souvent injuste, mais je pense que nous sommes arrivés dans un état de crise assez profond que le Brexit ne fait que matérialiser. Les pansements sur des jambes de bois ne sont plus de mise. Il faut être capable d'être très inventif en matière européenne.
Vous êtes pessimiste parce qu'il n'existe pas, je parlais de la réforme fiscale qui est un peu au cœur de votre analyse, parce qu'il n'existe pas d'Europe-providence. On aimerait bien entendre le mot d'Europe-providence.
Très difficile d'avoir une Europe-providence, ou en tout cas de la construire du jour au lendemain, pour la simple et bonne raison que les États-providence se sont construits sur une base nationale, sur la base d'un sentiment de solidarité étroit, qui était lié à la constitution d'une nation démocratique, et que transférer la totalité de l'État-providence français à un niveau européen, c'est inenvisageable, parce qu'il n'y a pas un sentiment de solidarité aussi fort. Donc il faut y aller de manière très progressive. Il y avait une proposition il n'y a pas longtemps du Trésor français qui était intéressante, qui disait qu'on pourrait créer une sorte d'assurance chômage européenne en complément des indemnités qui existent dans chaque pays. Je pense que c'est cette approche de complément qu'il faut avoir. L'Europe doit être un amplificateur de puissance, l'Europe doit être un amplificateur d'état social et pas du tout un réducteur. Et le débat traditionnel entre souverainistes et fédéralistes, pour moi, il est un peu plombé de ce point de vue, parce qu'il y a ceux qui considèrent qu'il faut faire des abandons de souveraineté et qu'il faut aller vers l'Europe fédérale, ce qui aujourd'hui, compte tenu de l'état des forces, n'a absolument aucun sens. Et puis il y a ceux qui nous expliquent qu'on pourra s'en sortir et traiter tous les problèmes en restant simplement à l'échelon national. Moi, je crois qu'il faut vraiment réinventer le lien entre la nation et l'Europe. Ça passe par un effort de vigueur démocratique à tous les échelons. Moi, je trouve intéressante, par exemple, la proposition de Piketty sur la création d'une assemblée interparlementaire européenne, pourvu que cette assemblée, et ça c'est un point auquel je tiens, soit composée de parlementaires des parlements nationaux. Et ce faisant, on connecte bien la vie démocratique nationale avec la vie démocratique européenne, parce qu'au moment des élections législatives, les candidats aux élections présentent un programme qui est à la fois le programme pour leur pays et le programme pour les politiques publiques qui vont être conduites au niveau supranational. Donc voilà une des idées qu'on pourrait avancer dans la réflexion prospective, parce que là, on n'est pas à horizon 6 mois, sur l'Europe.
Sur Agathe Cagé.
Sur cette question de l'Europe sociale, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les débats qu'on a vus, il y a deux types de pays qui s'opposent à l'Europe sociale. Vous avez les pays de l'Europe de l'Est qui ont peur de perdre en compétitivité s'ils devaient adopter des programmes de protection sociale un peu trop élevés. Et vous avez les pays de l'Europe du Nord qui ont peur d'être tirés vers le bas. Ce qui est intéressant pour moi dans la construction d'une Europe sociale, c'est prenons les modèles où la protection sociale, où l'État-providence est le plus développé. Et essayons d'aller tous vers ces modèles, pas par un abandon de souveraineté, mais en regardant ce qui se fait de mieux finalement en Europe, pour aller tous vers le mieux. Je pense que dans tous les pays au niveau de l'Union européenne, vous avez sur certains sujets un certain nombre de modèles sur les violences faites aux femmes. La lutte contre les violences faites aux femmes, par exemple, l'Espagne aujourd'hui est regardée comme un modèle dans les moyens qui ont été mis, dans le type d'actions qui ont été conduites. On va pas mettre des règlements au niveau européen pour obliger tous les pays à adapter leur réglementation à ce qui se fait en Espagne. Mais regardons ce modèle et essayons d'aller tous vers ce modèle dans ce qui est fait en termes de congé paternité, congé maternité. Les pays d'Europe du Nord sont très en avance. Essayons d'aller vers ce modèle. Essayons aussi de regarder ce que font les autres États de l'Union européenne comme des choses vers lesquelles on peut tous converger ensemble, parfois avec des contraintes qui sont plus souples, mais en regardant des dynamiques positives, parce que la positivité, c'est quelque chose d'essentiel et qui manque beaucoup aux politiques aujourd'hui.
Et le politiste que vous êtes ne se voit pas comme une militante, mais bien comme une analyste des moteurs de l'engagement, c'est votre expression. Tout dernier mot pour David Jaïs.
Nos grands-pères, en 1945, ils avaient devant eux un chantier immense qui était la reconstruction de l'Europe, la reconstruction de la démocratie, la reconstruction, le réencastrement du capitalisme après 3 décennies apocalyptiques où tout l'ordre ancien s'était détruit. Mais au fond, ils avaient qu'une équation à 2 termes. Il fallait réencastrer le capitalisme dans la démocratie. Nous, non seulement on a, après 30 années de néolibéralisme, la nécessité de réencastrer le capitalisme dans les systèmes démocratiques qui sont en crise, mais en plus, on a un 3e terme qui est celui de la soutenabilité environnementale. C'est dire si la tâche qui est la nôtre est encore plus difficile que celle que nos grands-pères et nos grands-mères ont relevée après 1945.
Eh bien, on lira avec intérêt, comme je l'ai fait moi-même, vos propositions à l'un et à l'autre. Merci. Agathe Cagé, donc, je l'ai dit, faire tomber les murs entre intellectuels et politiques, c'est paru chez Fayard en 2018.
Oui.
Et David Jaïs, c'est son 2e livre, Après la guerre civile n'aura pas lieu. Déjà le 2e, Slow démocratie, comment maîtriser la mondialisation. Et vous l'avez dit, reprendre notre destin en main, c'est chez Alary Édition. Encore merci beaucoup à tous les deux. Et merci à notre petite équipe, Anne-Laure Chanel qui a réalisé notre émission, en compagnie ce soir de Philippe Mercher, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet et Julie Voisset, notre stagiaire, se sont occupées elles de la préparation de la documentation. D'autres titres à vous suggérer d'ailleurs pour l'ensemble de cette série consacrée donc d'une génération à l'autre, au regard croisé à l'horizon 2030. À demain, très très bonne soirée à tous.